Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en collaboration avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Sylvie Franchet-Despéré, présidente du Conseil presbytéral de l'Église protestante unie de Nîmes et prédicatrice de l'Église protestante unie de France. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à vous tous, à vous toutes, et bienvenue dans ce culte sur Radio Alliance Plus. Radio Alliance, c'est un mot magnifique. C'est un mot qui dit le lien, et ceci à deux niveaux. Le lien des ondes de la radio entre les hommes, hommes et femmes bien sûr, et le lien spirituel entre Dieu et les hommes. Eh bien, en participant à ce culte, nous entrons dans ce double lien, dans cette double alliance. Le culte commence toujours par la louange. Parce que louer Dieu, c'est reconnaître tout ce qu'il nous a donné, depuis le début et jour après jour. Et puis c'est le remercier pour tout cela. Arrêtons-nous un instant pour y penser dans la prière. Ô notre Dieu, notre Père, en ces temps d'incertitude, nous te remercions et nous te louons d'être un point fixe, solide, d'être le rocher où nous pouvons nous accrocher pour tenir bon dans la foi. Nous te remercions et nous te louons pour les dons que tu as accordés aux hommes et aux femmes que nous sommes, dons variés, différents selon les personnes, et qui nous permettent de faire face aux difficultés et aux épreuves. Nous te remercions et nous te louons pour les moments de grâce fugitifs, où un tout petit détail est soudain éclairé et nous remplit de bonheur. Nous te remercions et nous te louons pour tous ceux, hommes, femmes, enfants, que tu mets sur notre chemin. Pour tous ceux, toutes celles qui te servent de tout leur cœur. Nous te remercions et nous te louons d'avoir voulu toi-même te faire homme, devenir un humain comme nous, dans la personne de ton Fils, Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur. Amen.
Il donne sa vie.
Placés devant Dieu, nous voulons aussi reconnaître ce qui ne va pas dans notre vie. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné ta loi d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Si nous avons fait naître la douleur, si par notre faute quelqu'un a pu tomber, et si nous avons refusé d'aller à toi, pardonne-nous. Si nous n'avons pas su aimer et aider ceux qui nous sont proches, à l'intérieur de notre famille, à l'intérieur de notre Église, pardonne-nous. Si nous avons parlé en vain, sans vérité, si nous avons laissé sans aide le malheureux, si nous n'avons pas accueilli les personnes que tu avais placées sur notre chemin, pardonne-nous. Nous reconnaissons devant toi notre péché, Dieu bon. Que le mal n'ait pas raison de nous, fais-nous marcher sur ton chemin. Amen. Chers amis, mes frères et mes sœurs, écoutons ensemble cette parole tirée de la première épître de Jean. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Recevons cette parole avec certitude. Dieu ne nous condamne pas, il nous pardonne. Amen. Au moment d'ouvrir la Bible, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Fais-nous connaître ta vérité et que ta parole soit et demeure vivante en nous, dans notre mémoire et dans notre cœur, à jamais. Nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel au chapitre 16, les versets 1 à 13. Le Seigneur dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül ? Moi je l'ai rejeté, il ne sera plus roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Jessé, le Bethléemite, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Le Seigneur dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens offrir un sacrifice au Seigneur. » Tu inviteras Jessé au sacrifice. Je te ferai voir moi-même ce que tu dois faire. Et tu conféreras pour moi l'onction à qui je te dirai. » Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Il se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre. Et ils lui dirent, « Bienvenue. » Il répondit, « Bonjour. Je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il consacra aussi Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Éliab, « À coup sûr, le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence, à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. » Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer Shamma, et Samuel dit, « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Jessé, « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Jessé, « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ?» Et il répondit, « Il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il soit arrivé ici. » Jessé l'envoya chercher. Or, il était roux, il avait de beaux yeux et une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel, « Confère-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. À partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur s'empara de David. Quant à Samuel, il s'en alla à Rama. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Qui commande ? D'où vient le pouvoir ? C'est une question qui trouve bien des échos dans notre actualité. Évidemment, il n'y a rien de commun entre notre temps et celui de Samuel ou de David, autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et je ne me lancerai pas dans des rapprochements forcés. La question reste toutefois sous-jacente. Qui commande dans le monde et dans ma vie ? Est-ce que c'est Dieu ? Où est-ce que c'est l'homme ? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plus simplement de suivre Samuel dans la mission que Dieu lui a confiée, trouver un roi pour le peuple. Et bien sûr de comprendre ce qui se passe. Samuel est un personnage de transition. Il fait le passage entre deux moments de l'histoire de l'Israël biblique, la période des juges, et Samuel est le dernier des juges, et la période des rois, puisque c'est lui qui désigne les deux premiers rois, Saül et David. Entre les juges et les rois, c'est l'organisation du pouvoir qui change, et cela ne va pas sans problème. Israël n'avait pas de roi, comme en avaient les autres peuples. Pourquoi ? Eh bien parce que son seul roi, c'était Dieu. Et lorsque le peuple réclame un roi, c'est un petit peu plus haut, chapitre 8, Samuel est contre, résolument contre. Et il met en garde le peuple contre ce qui lui apparaît comme une trahison envers Dieu et aussi un risque majeur pour l'avenir, car un roi peut vite devenir tyrannique. Mais finalement, Dieu accueille la demande du peuple et il dit à Samuel de céder. Et Samuel cède. Il obéit à Dieu. Samuel, tout au long de sa vie, obéit à Dieu. Il laisse Dieu conduire sa vie. Samuel est un modèle de fidélité, d'obéissance et de foi. Maintenant, le choix du roi revient à Dieu. Il continue à accompagner son peuple, y compris dans ses erreurs. Samuel doit oindre celui que Dieu aura choisi. Oindre, ou encore conférer l'onction, c'est verser de l'huile sur la tête de quelqu'un en signe d'élection. On le faisait en Israël pour les prophètes et pour les rois. Et rappelons-nous que le mot hébreu « Messie » et le mot grec « Christ » qui en est la traduction signifie « celui qui a été oint », »,« celui qui a reçu l'onction ». Il y a là un arc qui va d'un bout de la Bible à l'autre. Mais le premier essai de royauté est finalement un échec. Saül, le premier roi oint par Samuel, a certes accompli de grandes choses. Il a gagné beaucoup de batailles, notamment contre les Philistins. Mais il a aussi commis des fautes. Et la dernière, Dieu ne la lui pardonne pas. Comme le dit le premier verset de notre texte, Dieu l'a rejeté. Rejeté. Voilà qui est bien dur. Et d'ailleurs, Samuel a du mal à s'en remettre. Je cite, « Samuel ne revit plus Saül jusqu'au jour de sa mort. C'est que Samuel pleurait Saül, car le Seigneur s'était repenti d'avoir fait régner Saül sur Israël. » Peut-être Samuel a-t-il lui aussi un sentiment d'échec. Mais Dieu, lui, veut continuer avec Samuel. Et surtout, il veut continuer avec son peuple. Emplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Jessé, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils le roi qu'il me faut. Samuel est en quelque sorte un médiateur. Il fait passer la parole de Dieu dans la réalité de l'histoire des hommes. Le juge, il devient ainsi prophète. Et comme tous les prophètes, il résiste. Il résiste bien sûr au commandement de Dieu. Il résiste car il a peur. C'est que Dieu lui demande une chose qui peut être très dangereuse. Maintenant que Samuel a signifié son rejet à Saül, si celui-ci apprend que Samuel s'apprête à oindre un autre roi, il voudra se venger. Alors Dieu accepte d'entrer dans la logique de Samuel. Il prend en compte sa peur et il trouve un moyen d'échapper à ce risque. Tu diras, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. C'est une ruse comme on en trouve souvent dans les récits bibliques. Ainsi pourra se réaliser le plan de Dieu pour le peuple, trouver un nouveau roi. Samuel obéit comme toujours et arrive à Bethléem. Et là, ce sont maintenant les habitants de Bethléem qui ont peur, car Samuel reste un personnage important. Pourquoi vient-il? Qu'ont-ils fait? Mais la parole de Samuel les rassure tout de suite. Il vient pour un sacrifice. Ce n'est que cela. Ouf! Jessé est là avec ses fils, et c'est sur lui que va se focaliser le récit. Ce Jessé, nos vieilles Bibles l'appellent aussi Isaïe, Isaïe sans E au bout. Mais vous connaissez sans doute l'arbre de Jessé. Souvent sur les vitraux de nos cathédrales, il illustre le fait que Jésus, appelé fils de David, appartient à la descendance de Jessé. C'est important, car tout notre récit est en fait orienté vers le roi David. Donc, fils de Jessé. car David est le plus grand personnage de l'histoire d'Israël. Il faut donc que l'auteur de ce livre l'annonce, qu'il justifie ce choix, qu'il glorifie ce roi. L'auteur de notre histoire est plein d'un respect inconditionnel pour le roi David. Et le moment de son élection doit avoir quelque chose de spécial, d'exceptionnel. Pendant que le sacrifice se prépare, Samuel fait défiler les fils de Jessé, puisque c'est l'un d'eux que Dieu a choisi. Voici d'abord l'aîné, Éliab. Et Samuel se dit, certainement le Messie du Seigneur est là. Mais Dieu l'arrête tout de suite. Ne considère pas son apparence ni sa haute taille. Ce n'est pas lui que je choisis. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les hommes. Les hommes voient ce qui leur saute aux yeux. Mais le Seigneur voit le cœur. Bon, il n'y a pas besoin d'être croyant pour savoir qu'il ne faut pas s'attacher aux apparences. Mais l'important, pour moi, c'est la fin de la phrase. Le Seigneur voit le cœur. Pour nous, les humains, c'est plus difficile de voir le cœur. Mais parfois, c'est possible si, de notre côté, nous regardons avec le cœur. Il faut dire à la décharge de Samuel qu'il a déjà l'expérience de l'onction d'un roi. Il raisonne donc à partir de ce qui s'est passé pour Saül. Je lis le début du chapitre 8. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Et c'est justement lui que Dieu avait choisi. Alors forcément, Samuel s'attend à un autre Saül, grand et beau. Pas si simple. Après Éliab viennent les deux fils suivants, Abinadab et Shamma. Mais Dieu ne les a pas choisis non plus. Et ainsi de suite avec les quatre autres qui ne sont même pas nommés. Vient alors la question décisive. Samuel dit à Jessé, « Les jeunes gens sont-ils là au complet ?» Jessé répondit, « Il reste encore le petit, il fait paître le troupeau. » Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous installerons pas, c'est-à-dire nous ne nous mettrons pas à table pour le sacrifice, avant son arrivée. » Le petit, on traduit aussi le plus jeune. Jessé n'y avait pas pensé, il était trop jeune justement. Or c'est lui que Dieu a choisi. Il y a toujours des surprises avec Dieu. Le garçon n'est pas nommé pour l'instant, c'est seulement le petit. Mais il y a une ébauche de portrait. Alors selon les traductions, on dit qu'il était roux ou qu'il avait le teint clair. Souvent ça va ensemble. Il avait aussi une jolie figure et une mine agréable. Comme quoi, si Dieu voit le cœur, l'apparence n'est pas condamnée pour autant. Et sans doute, dans l'esprit de l'auteur du livre, sans doute fallait-il que le grand roi David soit beau. Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. C'est lui, Dieu a choisi, il a décidé et Samuel obéit. La question que nous nous posons ici, c'est celle de l'élection. Pas bien sûr au sens politique où nous l'entendons aujourd'hui, mais au sens propre, le fait de choisir, ou plutôt peut-être en prenant les choses dans l'autre sens, du point de vue des hommes, le fait d'être choisi. En l'occurrence, bien sûr, choisi par Dieu. Pourquoi, après tout, un peuple élu? Et dans ce peuple, pourquoi tel ou tel est-il élu, choisi comme prophète ou comme roi? Sans tenter de répondre directement à cette question difficile, je vais la retourner. Qu'est-ce que ça donne si je la retourne? Eh bien, ça donne ceci. Qu'arrive-t-il aux autres, aux non-élus? N'y a-t-il pas de place pour eux? Pas de relation forte avec Dieu? Pas de vocation à son service? Bien sûr que si, il y en a. Par exemple, ici, les frères de David, apparemment laissés pour compte, rejetés, sont appelés à être les témoins de son onction. Samuel prit sa corne d'huile et il lui donna l'onction au milieu de ses frères, dit l'auteur. Nous n'en savons pas plus, mais ne pas être choisi pour une fonction ne signifie pas ne pas avoir de mission de la part de Dieu, encore moins être exclu de la relation à Dieu. Dieu est présent auprès de chacun, de chacune. Et pour nous qui sommes chrétiens, l'élection concerne chaque personne et elle est marquée par un signe, le signe du baptême. Nous sommes tous élus, tous oints. Simplement, Dieu attend de certains un engagement plus fort à son service et il leur donne la force de le faire. Il leur donne son souffle, son esprit. Et le souffle de Dieu fondit sur David à partir de ce jour. Vous l'aurez remarqué, c'est au moment où il reçoit le souffle de Dieu que David, enfin, est nommé. On voit dans la suite du récit que le souffle de Dieu est retiré à Saül pour passer à David. La fonction de roi ne peut s'exercer que grâce à Dieu, avec le souffle qui fond sur le roi et qui garantit la présence de Dieu en lui. C'est bien Dieu qui commande, mais à travers le roi, et à condition qu'il se laisse conduire par son souffle. Il reste un dernier point. Cette onction va rester secrète. Car c'est vrai, David est trop jeune pour être roi dès maintenant. Apparemment, seuls Jessé et ses frères connaissent le secret de cette première onction. Et ils le garderont longtemps, jusqu'à une seconde, puis une troisième onction, plus politique. Ces onctions lui donneront la royauté de fait, devant le peuple d'Israël. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans ce secret même, dans ce temps de latence, où l'enfant David est plein de l'Esprit de Dieu, sans que personne, ou presque, ne le sache. Où il peut laisser mûrir en lui sa vocation, se laisser habiter, façonner par le souffle de Dieu. Je pense aussi à Jésus qui grandissait en sagesse, en stature et en grâce, jusqu'au jour où, à 12 ans, il déclara au docteur de la loi que Dieu était son Père. Et je me le demande, je vous le demande, combien de personnes autour de nous ont peut-être un tel secret qui attend de se révéler. S'il est vrai qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous élus, tous choisis, parce que tous aimés, tous sauvés, je crois profondément qu'il y a aussi des vocations particulières qui mûrissent dans le secret et se révèlent à leur heure, dans l'Église ou ailleurs. Peut-être même y en a-t-il dans notre famille, parmi ceux qui nous sont proches. Et peut-être s'agit-il justement de celui ou celle à qui on ne pensait pas, pour qui on ne l'aurait jamais cru? C'est bien ce qui se passe avec David. Oui, Dieu nous réserve de belles surprises. Amen.
Thank you.
Nous proclamons maintenant notre foi de tout notre cœur. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix, pour les autres et pour le monde, comme pour moi. Il est ressuscité, il est présent parmi les hommes, et pour les servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes et les femmes dans l'histoire, pour l'amener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Aussi je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus nous libère pour des décisions libres. Nous nous tournons vers Dieu pour intercéder pour le monde. Ô notre Dieu, notre Père, au moment de te présenter le monde, nous sommes saisis d'effroi. Tant de guerres, tant de cruautés, tant de malheurs, nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas comment faire pour être fidèles à notre vocation de chrétien et dans notre désarroi, nous nous tournons vers toi. Nous te présentons toute la souffrance du monde. Nous te prions pour toutes les victimes de la guerre, du terrorisme et de toute forme d'injustice. Seigneur, aie pitié. Nous te présentons ceux qui nous sont proches, nos parents, nos enfants, nos familles, nos amis. Tu sais toi-même de quoi ils ont besoin. Bénis-les, Seigneur, nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Seigneur, entends notre prière et bénis tes enfants. Amen. Ce moment de culte touche à sa fin. Nous le terminerons en prononçant ensemble la prière des disciples du Christ, puis en écoutant et en chantant « À toi la gloire ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. À toi la gloire.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église, nimes-église-protestante-unie.fr, ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par Sylvie Franchet d'Espéré, présidente du Conseil presbytéral de l'Église protestante unie de Nîmes et prédicatrice de l'Église protestante unie de France. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.